Alors vous, évidemment, vous avez adoré, mais il y a toujours quelqu'un pour vous dire « c'est nul, ce film, c'est complètement raté ». Et surtout, prêtez attention à la façon qu'il a de vous le dire, guettez son sourire, et même parfois son étrange plaisir à peine dissimulé. Ça vous renseignera sur son mépris ou sa cruauté, mais aussi peut-être sur sa cinéphilie, parce que le film en question, si ça se trouve, se revendique comme mauvais. Auquel cas, il faut utiliser le bon mot, c'est un nanar plutôt qu'un navet. Disons que c'est un navet qui, par bien des aspects, se félicite d'être navrant. C'est le film qui ne s'excuse jamais de son petit budget, vous savez, sur le tournage, mais aussi au montage, on a fait comme on a pu et il y a des moments où on pouvait pas grand-chose. Hein. Clairement, on n'a pas pu éviter quelques accidents, alors autant faire avec. Sur un malentendu, c'est charmant. Quant aux effets spéciaux, on n'avait pas les moyens, alors on a décidé d'assumer le fait main. Il y a une jouissance du nanar, peut-être parce qu'on se dit qu'on aurait pu faire aussi bien, mais surtout parce que c'est toujours un film de spectateur qui parle à l'amateur de cinéma, quel qu'il soit, qui nous envoie des clins d'œil, même des coups de coude appuyés quand on les reconnaît, ça procure un plaisir démultiplié. C'est pour ça que ça réjouit autant les fans furieux que les cinéphiles très distingués, ceux-là même qui vous disent « Ah, c'est nul ce film, c'est complètement raté ». Méfiez-vous du nanar, vous risqueriez de passer à côté.
Boomerang à Cannes.
La perspective ensoleillée de la croisette.
Augustin Trapenard sur France Inter.
Boomerang. Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est-il à l'abri du nanar? Oscar du meilleur film pour The Artist il y a 10 ans, c'est un cinéaste du détournement. 5 ans après le redoutable, son pastiche godardien, il revient en sélection officielle avec Coupé, une comédie horrifique qui fait donc l'ouverture de cette 75e édition du Festival de Cannes et que vous pourrez également découvrir dès ce soir au cinéma dans toute la France. C'est l'histoire d'un réalisateur habitué des films pas chers et dans la moyenne, c'est une citation, qui se voit confier le remake d'un film de zombies japonais pour le meilleur et pour le pire, hein, on va pas se mentir. Bonjour Michel Hazanavicius.
Bonjour Augustin.
Merci d'être avec nous ce matin. Je me suis demandé qu'est-ce qui pour vous fait la beauté d'un nanar?
Mais l'enthousiasme qui frise et l'insouciance, c'est-à-dire en dehors de tout jugement, dehors de toute peur de la critique, etc. Il y a une joie de faire du cinéma, une joie de raconter des histoires. Une joie de bricoler, puis je pense une joie d'être ensemble, c'est-à-dire une aventure humaine de fabriquer. Le très beau film de Tim Burton, Ed Wood, raconte ça merveilleusement bien.
Qui est l'histoire d'un cinéaste de nanar, justement.
Exactement, Ed Wood, qui a longtemps eu la palme de plus mauvais réalisateur de l'histoire du cinéma. Et alors, il y en a peut-être d'autres qui l'ont battu depuis.
Mais Michel, c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait un ratage? Qu'est-ce qui fait qu'un film, indépendamment des critiques qui lui sont faites, est pour vous raté? Parce que ça arrive.
Oui, ça arrive. Alors, pour moi, un film raté, c'est un film qui a une ambition un peu plus haute que le résultat, voire beaucoup plus haute que le résultat. Quand on a une ambition haute et qu'on fait, voilà, et qu'on n'y arrive pas, il y a ratage. Après, le truc, c'est que on ne rate pas un film. On fait le mieux qu'on peut. Et après, des gens décident qu'il est raté ou pas. Mais j'ai jamais connu quelqu'un qui dit « je suis en train de rater un film génial, là, avec j'ai des acteurs pourris, c'est vraiment cool ».
D'autant que tout film qui se doit n'est jamais à la hauteur du film qu'on s'était imaginé, je suppose. D'ailleurs, votre film parle de ça.
Ah bah il y a toujours, en fait, tant que c'est du papier, tant que vous expliquez à des gens, etc., c'est dans le gaz, donc c'est magnifique, parce que vous avez pas tous les détails, etc., et puis tout d'un coup, ça prend forme. Réalisation, ça veut sans doute dire que ça devient réel, quoi. Alors qu'avant, c'était du rêve.
Mais ça vous est déjà arrivé de vous planter complètement, vous?
Ben oui.
Ça fait 30 ans que vous réalisez. Mais vous pensez à quel film?
Ah bon, je vais pas le dire, parce que je vais pas mâcher le travail de ceux qui... Ben non. Mais ouais, bien sûr. Non, mais en plus, on peut se planter sur un film en entier, mais on peut se planter sur une scène, on peut se planter sur un acteur, on peut se planter sur une réplique, on peut se planter... Oui, il y a des trucs, je me dis, mais on n'est pas terrible.
Alors, il faut raconter, parce que cette question du ratage, elle est centrale dans Coupé, notamment dans la première demi-heure où le spectateur croit assister à un film de zombies tourné en plan séquence pour le moins étonnant. Qu'est-ce qui s'y joue dans cette première demi-heure pour vous? Qu'est-ce qui se passe?
Alors ça dépend, parce que cette première demi-heure, il y a une espèce d'astuce scénaristique temporelle qui fait qu'on... Je vais le dire, on la revoit cette demi-heure. Mais alors, il y a effectivement... Ce qui se joue, je pense, c'est le positionnement du spectateur sur deux manières différentes de voir la même chose. Et alors au début, effectivement, on voit un film raté, où on a cette sensation-là. Mais... on voit un film raté, qui sait qu'il est raté. Donc il y a quand même une distance, il y a possibilité de se marrer quand même.
Il y a une troisième possibilité, Michel, c'est que le spectateur quitte la salle en se disant qu'est-ce que c'est que cette histoire, j'ai pas le temps.
J'adorerais qu'un spectateur quitte la salle. Parce
comment
que
ça ce...
Eh bien, je vais vous expliquer, parce que vraisemblablement, il a au moins un copain qui va lui dire « t'es con, t'aurais dû rester », et ça veut dire un deuxième ticket. Et moi, je suis tout à fait pour, et j'aime beaucoup les gens qui achètent le ticket.
Vous êtes du genre à partir d'une projection, vous ?
Non. Non. Une projection, non. Devant un ordinateur, ça peut m'arriver, mais d'une projection, non.
La dernière fois, c'était quand vous avez éteint votre ordinateur devant un film?
Je crois que c'était devant une série. Je pourrais même pas vous dire le titre.
Revenir à couper, réaliser volontairement un film qui soit perçu comme mauvais ou raté, tout en restant un film divertissant, ça tient à quoi?
Ben, on essaye de garder le cap, l'honnêteté de dire c'est un film raté, mais on essaye de trouver des intérêts dramatiques, c'est-à-dire des choses qui soit intriguent, soit interpellent, soit donnent envie, soit font rire, soit donnent envie aux spectateurs d'attendre au moins encore deux minutes, quoi.
Ouais, et c'est super que vous parliez de spectateurs, justement, parce que ça tient quand même à une connaissance, à un goût pour le film de genre sur lequel vous jouez. Si on prend l'exemple du film de zombies, de quel code est-ce qu'on parle, là?
Voilà, ouais, c'est même pas... Oui, alors d'abord, c'est des zombies pour bébés, hein. Je veux dire, si vous avez peur des zombies, vous êtes les bienvenus. Enfin,
oui.
Tout le monde rentre. Hein.
Ils sont pas très effrayants.
Non, pas très. Et personne se mange. Enfin, tout va bien. Il y a un côté un peu gore, hémoglobine. on va à fond dans les trucs. Sur la musique, c'est pareil. On a vraiment tartiné, quoi. C'est-à-dire que quand on est censé être ému, on a 14 violons qui partent en même temps. Enfin, voilà.
Mais surtout que la musique est un personnage qui est joué par Jean-Pascal Zadi.
Ouais, absolument.
Alors là, je pense tout de suite, évidemment, puisqu'on parle de détournement, à la série des OSS 117. Sur quoi repose cet art du détournement de n'importe quel langage cinématographique? Parce que c'est ça que vous faites aussi.
Oui, beaucoup. Mais en fait, moi, j'ai pas étudié le cinéma. J'étais dans une école d'art et je faisais du détournement à ce moment-là. Et quand j'ai commencé à travailler avec les nuls. Donc, si vous voulez, j'ai un parcours qui m'a un peu formaté à ça. Je dirais que le détournement, c'est une manière de travailler sur un truc qu'on a en commun avec le spectateur. Et il y a une espèce de jeu qui se met en place. C'est un truc assez ludique.
Et vis-à-vis de ce que vous détournez, Michel Hazanavicius, il y a aussi de la tendresse.
Toujours. Ouais, toujours. Toujours. Oui. Mais c'est un mélange de moquerie et de tendresse. Par exemple, sur les OSS dont vous parliez, il y a quand même beaucoup d'affection pour l'esthétique, etc., etc. Mais en même temps, c'est très, comment dire, caustique sur l'époque, sur l'espèce de domination.
Mais ça veut dire quand même que faire un film pour vous, c'est toujours d'une façon ou d'une autre faire preuve d'admiration.
À un endroit ou à un autre, oui, c'est sûr. Il y a toujours cet exercice d'admiration. Et puis, quand on fait du détournement, ça m'amuserait pas, je crois, de détourner un objet ou un genre de film que je n'aime pas. Voilà. Après, pour revenir à OSS, par exemple, il y avait quand même, sur l'époque, les films sont très moqueurs sur l'époque.
C'est vrai.
Mais sur l'esthétique, ils rendent de hommage, comme on dit.
Mais c'est vrai que c'est le point commun de plusieurs de vos films. Je pense à Coupé, je pense à The Artist, je pense aussi au Redoutable, qui sont tous des films d'ailleurs sur le cinéma. Au fond, qu'est-ce que c'est pour vous le cinéma, Michel?
Eh bien, c'est vaste question. C'est quand même mon quotidien. C'est quand même ma zone de réflexion. J'évolue là-dedans. C'est vrai que même dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire, par exemple, j'ai du mal à me mettre en colère. Mais j'ai l'impression que quand je me mets en colère, c'est comme si j'étais au cinéma de moi-même et je me dis, oh le con. J'ai toujours une espèce de distance de spectateur, je dirais, par rapport au truc. Et je me dis toujours, j'ai pas envie d'être lui. J'ai pas envie d'être ce personnage-là. Je préfère être un autre, quoi. Donc, je crois que j'ai une espèce de biais cognitif, enfin un truc qui m'amène tout de suite à un truc de représentation et qui passe par le cinéma. Ouais.
Vous savez qu'il y en a une qui fait son cinéma dans cette émission, sans doute la connaissez-vous, Michel, c'est évidemment La Culture et son actualité moins cinéphile que ciné-ciné. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 17 mai? « rock en stock, la maison Drouot à Paris organise aujourd'hui la mise aux enchères de plusieurs dizaines de trésors de l'histoire du rock, sous le marteau 84 lots, parmi lesquels des costumes de scène de Martin Gore, de Depeche Mode ou des autographes de Jimi Hendrix, signés sur des 45 tours de Johnny Hallyday dont il assurait la première partie en 66. Mais le clou de la vente, ce sera indéniablement la guitare Gibson de Noel Gallagher, fracassée dans les loges de Rock en Seine en 2009, le jour où les deux frères ennemis de la Britpop ont entériné la fin d'Oasis, mise à prix 150 000 euros, banco.
Accepting a literary prize is a proper thing to do.
Murakami pour la vie, le grand écrivain japonais Haruki Murakami a reçu le prix mondial Chino del Duca 2022, récompensé pour l'ensemble de son œuvre. L'auteur de la saga 1Q84 rejoint un palmarès composé notamment de Maryse Condé, Joyce Carol Oates, Patrick Modiano ou encore Mario Vargas Llosa, créé en 75 pour soutenir le travail à portée humaniste d'un artiste ou d'un scientifique. Le prix est le plus doté au monde, figurez-vous, après le Nobel, 200 000 euros banco banco.
La tour Eiffel est toujours là. Bonjour la tour, bonjour, bonjour Paris.
Toujours plus haut, les fourneaux. C'est aujourd'hui que le premier étage de la Tour Eiffel se dote d'un nouveau restaurant d'exception, baptisé Madame Brasserie, ouvert à 360 degrés sur la ville et piloté par le chef étoilé Thierry Marx. L'établissement proposera une carte décontractée entre snacking, dîner et petit déjeuner, le tout composé de produits locaux et de saison, issus dans leur grande majorité du circuit court. Est-ce qu'on y court ?
Vous prenez tous les deux une fois pour toutes, que pour moi, histoire de cul n'ont aucune importance.
Et enfin, aujourd'hui, à Cannes, on lance les festivités officielles, on l'a compris, avec la première montée des marches et la projection de votre délirant coupé, Michel. Mais du côté de la salle Dubussy, on inaugure aussi le cycle très chic et résolument patrimonial de Cannes Classique, qui propose en ouverture une version restaurée de La Maman et la Putain, chef-d'œuvre de Jean Eustache daté de 1973, avec Bernadette Lafont, Françoise Lebrun et Jean-Pierre Léo. C'est beau. Cinéaste oscarisé, Michel Hazanavicius, donc invité de Boomerang ce matin, dont le film Coupé fait donc l'ouverture du festival. Et ce qu'il faut raconter quand même, c'est que ce film, il n'était pas censé s'appeler comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il s'appelait Z. Enfin, il s'appelait Z comme Z. C'est un titre que j'avais trouvé il y a un an, qui était bon, moyennement drôle, mais voilà, sympa. Et quand le film a été annoncé à Cannes... alors d'abord je vous passe les épisodes Zemmour et tout ça parce que c'est pas très intéressant, il oui. était des aides un peu partout, mais quand le film a été annoncé à Cannes, il est en ouverture, il est devenu international tout de suite, et là il y a des Ukrainiens du cinéma, producteurs, distributeurs, réalisateurs qui m'ont écrit en me disant pour nous c'est hyper dur que Cannes ouvre avec un film qui s'appelle Z. Pour nous, c'est le Z, c'est un peu la croix gammée en ce moment. Enfin, c'est
et du parce coup, que ça renvoie à l'armée russe en fait.
Oui, c'est le Z de Zapotvi qui veut dire victoire pour les Russes. Et du coup, je me suis dit effectivement, j'avais pas anticipé leur point de vue du tout. Et donc, au-delà du fait de me sentir un peu con, je n'imaginais pas qu'on ne change pas en fait. Donc, ouais. Je suis hyper content qu'on ait changé parce que ne pas changer, en fait, aurait été une indifférence pas très propre.
Voilà. Et ça m'intéresse sur la résonance politique du festival. Là, je pense à un de vos précédents films qui s'appelle The Search, sur les exactions de l'armée russe en Tchétchénie, qui avait été présenté à Cannes il y a 8 ans, qui avait d'ailleurs reçu un accueil assez mitigé par la presse. Ce film, il paraît qu'on vous en parle beaucoup en ce moment.
Oui, parce qu'effectivement, le film décrit des événements qui ressemblent malheureusement à ceux qui ont pu se passer et qui se passent en ce moment en Ukraine. Donc,
qu'est-ce qui vous avait poussé à traiter de ce sujet à l'époque ?
Alors c'est un peu une longue histoire, mais j'avais produit, coécrit avec Raphaël Glucksmann notamment un documentaire sur le Rwanda, et puis j'avais rencontré André Glucksmann, dont la Tchétchénie était une de ses dernières grandes causes. Et donc j'ai rencontré des Tchétchènes, etc. Et en fait, j'ai été frappé par le décalage entre l'image que les Français, on se faisait des Tchétchènes, et les gens que j'ai rencontrés, qui étaient vraiment des réfugiés, qui avaient vécu une histoire atroce, quoi. C'était pas dans les radars.
Ça allait combler quelque chose, un manque, en fait, si je vous entends bien.
Eh ben moi, en fait, j'avais envie de faire un film là-dessus, et c'est vrai qu'après après l'Oscar, j'avais la main, quoi. C'est-à-dire, j'ai eu le droit de faire un film cher, sans réelle vedette, avec des, disons, les vraies vedettes étaient des Tchétchènes et des Russes, et d'aller le tourner là-bas, et donc je l'ai fait.
Cela dit, c'est intéressant, j'y pense, dans un contexte aussi particulier que celui de cette guerre en Ukraine. Pensez-vous que le public aura à cœur de rire, justement, avec un film comme Coupé? Parce que c'est la fonction première de ce film, Michel Hazanavicius. C'est une question que vous devez vous poser, vous, en tant que réalisateur.
Mais je crois, en fait, c'est-à-dire, nous, on l'a fait, alors, c'était pas par rapport à la guerre, mais on l'a fait en sortie de pandémie, qui était aussi, pour d'autres raisons, mais une période ultra anxiogène, et on l'a fait comme des gamins qui sortent, c'est les grandes vacances, quoi, en hurlant comme ça. Et c'est vrai que depuis que je le montre, j'ai l'impression qu'il y a que les gens sont morts de soif, quoi, sur la comédie. Il y a un plaisir de rire. Et puis, oui, ils sont contents, quoi. Et puis même ce qu'ils ramènent chez eux, c'est-à-dire, ils rient pendant la projection, et puis ce qu'ils ramènent chez eux, ils sont contents, et ouais, c'est cool.
Qu'est-ce qui est le plus difficile que de faire rire au cinéma?
Mais en fait, ça dépend qui vous êtes, parce que moi, quand on me dit, ah là là, faire rire, c'est ce qu'il y a de plus dur, franchement, enfin, je me dis toujours, le fais pas, en fait. Si ça te semble tellement dur, il y a des gens pour qui c'est assez naturel de faire rire. Bon, moi, je bosse bien pour, j'adore ça, faire rire.
Sur quoi ça repose chez vous, l'humour, l'écriture comique, sur quel rouage?
J'essaye de varier, mais le timing est un truc pour moi un peu primordial. Évidemment, l'interprétation, les acteurs, la bonne phrase, la bonne situation.
Mais c'est bien que vous parliez de timing, parce que ça veut dire que vous pensez aussi au montage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en a parlé, la première demi-heure de ce film, ouais, Coupé. Elle a pas de montage. Elle est, voilà, seulement un point de montage, ouais, je crois. Elle est tournée en plan séquence, c'est-à-dire sans interruption, c'est-à-dire sans couper. Qu'est-ce que ça implique de votre part et de la part des acteurs? Faire rire malgré cette contrainte.
Ah, ça veut dire intégrer le montage dans le filmage, dans l'interprétation, avec 5 semaines de répétition. Non, mais c'est vrai. Ça veut dire 5 semaines de répétition avec les acteurs et l'opérateur. C'est-à-dire que non seulement ils savaient exactement où ils devaient être dans l'espace.
Vous n'avez pas la planter, quoi.
Ah non, celui qui plantait au bout de 25 minutes, je pense que... Non, mais personne l'a...
Et vous l'avez fait combien de fois?
On l'a tourné pendant 4 jours, donc c'est un plan séquence de 30 minutes, et on a dû la faire à peu près une quinzaine de fois. Mais je vous dis, on l'avait répété 5 semaines avec l'opérateur, qui savait exactement quand se retourner, quand revenir, quand arriver sur telle personne, etc.
Donc, c'est du théâtre, là? La danse?
C'est plus une chorégraphie, en effet, ouais. Et une chorégraphie avec les 7 acteurs, mais autour, il y a l'armée mexicaine qui court, hein, de tous les côtés, parce qu'il y a des gars des effets spéciaux, il y a des cascades, il y a de l'hémoglobine
et
de partout.
Et le film, on va pas tout révéler, mais le film met en scène tout cela, justement. Le plan séquence, Michel Hazanavicius, qui pour certains cinéastes, je pense à Gaspard Noé, à Alfonso Cuarón, à Alexandre Sokourov, constitue une sorte de quête ultime pour le cinéaste. Qu'est-ce que ça représente pour vous?
Jusqu'à présent, pas énorme, en fait. Enfin, non, je trouvais, j'adore les regarder, mais c'était pas mon, je veux dire, j'y voyais pas un truc, c'était pas mon Graal, quoi. Et moi, j'aime bien chant contre chant. Moi, j'aime bien ce qui met en valeur les acteurs, en fait.
Ouais.
Donc des fois, le chant contre chant, c'est vous pouvez vraiment être, comment dire, très très précis sur le timing.
C'est intéressant,
etc.
Vous voulez dire que le plan séquence met en valeur plutôt le réalisateur, pour le coup?
Non, parce que quand c'est bien joué, les acteurs, c'est fantastique, parce que c'est eux qui ont la main, c'est eux qui maîtrisent justement le temps, etc. Donc quand vous voyez des bons acteurs ensemble réussir une performance, effectivement, là, il y a un petit morceau de théâtre, c'est-à-dire que c'est les acteurs les patrons. Mais de l'avoir fait, c'est vrai que j'ai goûté un truc, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré le faire, en fait.
Alors, le cinéaste dont vous nous racontez l'histoire dans Coupé, il est joué par Romain Duris, et il semble avoir un peu oublié ce qui le motivait au départ. Dans le métier, il a la réputation, je le disais, d'être un réalisateur pas cher et dans la moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire, pas cher et dans la moyenne?
Alors, d'abord, c'est pas un cinéaste, c'est un réalisateur un peu qui fait télé, internet, machin, enfin, bon, il est pas... Mais pour moi, c'est un bon gars quand même, mais c'est un gars qui est un peu fatigué, quoi. Il a mis ses ambitions, s'il en a eu, un peu de côté. Bon, il vivote de son truc. C'est pas du tout un méchant gars, il est pas du tout
méprisable. Mais il devient bien, à travers lui, vous faites un portrait de ce que peut être un réalisateur. C'est une question que je me suis posée pour vous. Qu'est-ce que c'est? Quel rôle est-ce que c'est?
Le personnage de Romain, vous voulez dire?
Le réal.
Le réal, pour moi, c'est important, mais forcément, mon ego. Moi, c'est ça, mon ego va répondre. Le réal, c'est ce qui est le plus important. Mais vous êtes vraiment le centre. Comment dire? C'est très organique, un plateau, et vous êtes quand même le centre névralgique de tout ça. C'est-à-dire que, par exemple, si je baille sur un plateau, il y a 16 personnes qui vont bâiller dans la minute.
Ah, c'est vrai?
Ah ouais, si je m'assois, il y a plein de gens qui s'assoient.
Si vous faites une pause pipi, tout le monde va faire une pause pipi, tout ça.
Alors ça, j'ai pas vraiment vu parce que
j'en ai pas fait.
Bah, non, parce que j'étais dans mon coin, derrière mon arbre.
Et puis c'est un rôle physique, Michel Hazanavicius. Moi, c'est ça qui m'a vraiment marqué dans le personnage de Romain Duris, c'est qu'il court tout le temps.
Ouais, mais alors c'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai quand même parce qu'en fait, le temps est tellement précieux au cinéma que vous courez tout le temps réellement. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps à l'affût de gagner une minute là, deux minutes là, etc. Et même si vous courez pas physiquement, vous courez après le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps.
C'est un peu de ça dont vous parlez dans ce film, de votre cinéma en fait, de cette quête du temps.
Oui, et parce que tout vous file entre les doigts en fait, et vous êtes là à tout essayer de mettre le maximum de trucs dans ce que vous tournez pour pouvoir avoir un tout petit peu de choix après quand vous allez monter et que vous allez reconstruire votre film. Donc oui, c'est une espèce de course. Je vous dis, il y a un peu tout qui se casse la gueule et vous essayez tout le temps de remettre un peu comme vous aviez prévu que ce serait, quoi, tous les éléments de votre film, quoi, voilà.
Alors on y va, on court ensemble, on va parler de rythme, de temps juste après Queen quand même en 1979, sur l'album Jazz qui vous évoquera sans doute une scène mémorable de zombie dans ce chef-d'œuvre qui est Shaun of the Dead. Vous êtes sur France Inter avec Michel Hazanavicius, vous écoutez Boomerang à Cannes et rien ne peut vous arrêter.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Good time, I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me now.
I'm having a good time.
Don't stop me,
yes,
now.
I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload.
Du Festival de Cannes.
C'est la montée des marches, Cannes, le festival, ça vous dit quelque chose?
Ça nous dit quelque chose. On est quelque part entre James Bond, le ministre de la Culture pas encore nommé, et l'égérie Petrolane. Il a le cheveu, je le disais, désirable, tout en lustre et houppette, la lunette branchée, le regard prise électrique, la mâchoire américaine, avec son petit polo bleu marine ce matin. Le cinéaste Michel Hazanavicius, invité de Boomerang à Cannes pour son film Coupé, qui sera projeté, je le rappelle, ce soir en ouverture du festival, qui est surtout dans les salles de cinéma partout en France. Un film à la gloire du cinéma, on le disait, de ses artisans et de ce moment intense que constitue quand même le tournage, dont on parle pas souvent. Quel lieu est-ce que c'est pour vous, un plateau de cinéma?
Ah, c'est un beau moment. C'est pas forcément là où tout se fait. Pas du tout. Il y a entre l'écriture et le montage, voilà, il y a trois phases d'écriture pour moi. Mais c'est un beau moment parce que c'est un moment hyper fusionnel. C'est un moment où tout le monde est à l'écoute de tout le monde. D'ailleurs, quand c'est pas votre plateau et que vous venez sur un plateau, enfin moi, mon corps m'embarrasse un peu. Je sais pas où me mettre, je sais pas où.
Ah oui.
Et en fait, parce qu'il y a un truc qui est fusionnel. Tout le monde se file la main, tout le monde et on est tous, comment dire, concentrés sur la prise.
Voilà. En quoi diriez-vous que ce qui se passe devant la caméra est au moins aussi intéressant que ce qui se joue derrière la caméra? Parce que c'est ce que votre film raconte, somme toute.
Ben moi, ce que le film raconte, c'est que on croit. Pour moi, le film, alors je le dis très tranquillement, parce que le film est un remake d'un film japonais fait par un étudiant. Donc
et c'est là où c'est vertigineux, parce qu'il raconte aussi l'histoire d'un remake.
Exactement. Ouais. Mais du coup, donc je peux être tout à fait tranquille pour faire des compliments, parce que je l'ai fait pas forcément à mon film, mais à l'original. Mais le film est un peu conçu comme un tour de magie. Et dans ce tour de magie, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit quelque chose sur lequel on pourrait être critique, et puis après on voit autre chose et on se dit mais pourquoi j'ai des critiques, en fait je suis complètement à côté de mes pompes.
Oui.
c'est pas ça qui est important. Ok, ils l'ont raté, mais ils l'ont raté superbement, ils ont été héroïques, et en fait c'est beaucoup plus beau ça que ma petite appréciation du film de départ.
Quand est-ce que vous êtes retrouvé pour la première fois sur un plateau, Michel Hazanavicius?
La première fois sur un plateau comme réalisateur ou
non, dans la vie.
Ah, dans la vie, je crois que j'ai fait de la figuration pour un film de Alex Métayer. Donc je devais avoir, je sais pas, 16 ans, un truc comme ça, et c'était la nuit dans une station-service sur l'autoroute. Et puis j'étais avec mon frère et il nous avait demandé de faire des grands gestes à côté de notre voiture, donc on faisait des grands gestes. Et là on a un pote qui arrive qui dit ah bah les gars qu'est-ce que vous faites, et on continue à faire nos grands
vous
gestes comme deux
le
cons.
Film.
Non mais on était là, on peut pas te parler, on est en train de tourner un film, dégage. Et on était comme deux cons avec mon frère et nos grands gestes, quoi.
Et quel jeune homme est-ce que vous étiez à 16 ans, déjà rêvant de cinéma?
De manière très, comment dire, honteuse, quoi. Jamais j'aurais assumé dire que je voulais faire du cinéma. J'y pensais, mais comme un fantasme, pas pour moi, quoi.
C'est-à-dire que si vous aviez ce jeune homme de 16 ans en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? Maintenant que quand même, vous avez un peu réussi.
Je lui dirais range ta chambre. Déjà, non, je sais pas. Non, j'étais hyper
parce
bordélique.
Ça m'intéresse, moi, parce qu'il avait une chambre, qui était pas rangée.
Ah, ultra dégueulasse. C'était,
Il y avait quoi dans cette chambre?
Il y avait des rats qui manifestaient
Michel,
en disant c'est trop sale. Non, je sais pas, j'étais foutraque, quoi. J'étais vraiment foutraque, j'avais aucune ambition. J'avais pas envie de faire, j'aimais dessiner, quoi, et fumer. C'est pas ouf, quoi, comme
Mais je vous pose la question, vous me voyez venir, parce que dans le film, le réalisateur a une fille.
Oui.
Qui est jouée par votre propre fille.
Oui.
Qui s'appelle Simone Hazanavicius et qui rêve d'exercer le même métier que lui.
Ouais.
Secrètement, elle incarne la jeunesse, elle incarne la relève. Sa passion pour le cinéma est encore intacte. Et d'une certaine façon, elle va finir par réinsuffler à son père une énergie qu'il avait peut-être un petit peu perdue. La jeunesse, Michel Hazanavicius, quelle énergie est-ce qu'elle vous donne à vous, qui êtes quand même, il faut le rappeler, président du conseil d'administration de la FEMIS, l'école qui forme les cinéastes de demain?
Eh ben, elle arrive, ce que j'aime beaucoup cette génération-là qui arrive, parce que je trouve qu'ils se sont emparés de leur époque, ils viennent avec un truc qui, pour moi, je pense que notre, moi j'ai 55 ans, et que notre génération, on est arrivé avec un truc d'insouciance et d'ironie.
Vous êtes boomer, Michel.
Eh oui, je suis boomer, mais c'est vrai qu'on est arrivé avec un truc, on sortait de la France de Giscard, et on est arrivé en disant, ah, rien à foutre de rien, on se marre et tout ça. Et eux, ils arrivent avec des vrais trucs, premier degré. Et effectivement, ils ont un rapport un peu d'intégrité, de sérieux. Ils peuvent faire de la politique. Moi, ça me serait jamais venu à l'esprit à l'époque. Enfin, j'adore parler avec eux. Enfin,
pour autant, le cinéma, dans quelle mesure c'est quelque chose qui se transmet pour vous?
C'est difficile, je dirais, par l'exemple. C'est compliqué à enseigner, je dirais. C'est très compliqué. Il y a quelques trucs. C'est-à-dire, moi, si je parle à quelqu'un, effectivement, je peux lui donner ma méthode. Et quand on me demande de lire, le seul truc que je suis capable de faire, c'est si moi je devais faire, voilà ce que je ferais.
C'est ça votre méthode?
Ouais, c'est ma méthode. Et
c'est de parler de vous, en fait.
Mais ouais, c'est vrai. non, mais c'est vrai. Mais dans le sens, s'il y a un truc qui fait écho chez toi, tant mieux. Mais je peux pas faire ton film. Et je peux pas être toi. Je vais pas t'apprendre à être toi-même.
Et on peut pas apprendre à regarder, si.
Si, à analyser. Mais, les premiers, ils ont fait comment? Et Fritz Lang, il a fait comment? Il a étudié qui? Il y a un moment donné, il faut quand même que les choses viennent de vous. Il faut quand même que ça vienne de l'intérieur. Donc, apprendre, étudier, tout ça, c'est pas tout, hein. Il faut un souffle. Il faut apprendre à s'écouter. Enfin, c'est compliqué. Personne peut vous apprendre à être vous-même. Donc,
Merci infiniment, Michel Hazanavicius, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Coupé, avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois, Mathilde Alluce, entre autres, sera projeté aujourd'hui en ouverture du 75e Festival de Cannes. Vous pourrez le découvrir dès ce soir dans toutes les salles de France et de Navarre. Pour nous, c'est une réussite absolue, c'est jubilatoire, c'est sur le cinéma. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers et Mathieu Gallet. C'est juste après ça. De l'instinct, Fishback, il en faut de l'instinct dans ce métier, je peux vous le dire. Il est 9h40, presque 40 sur France Inter. Et tout de suite, c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers. L'instant M, chère Sonia.